Bonjour mesdames et messieurs, il est 7h00 en temps universel. Merci de nous accueillir chez vous pour cette session d'information au micro Nanit Talani. Voici le menu. Au Mozambique, maintien du Frelimo au pouvoir confirmé par les résultats préliminaires des élections. Conflit au Soudan, appel à l'aide humanitaire alors que les frappes aériennes augmentent. L'état de Kogi au Nigeria en détresse. Plus de 60 000 hectares de terres agricoles détruits par les inondations. Duel politique ici aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump en campagne pour les États disputés. Conflit Israël-Hezbollah. Le premier ministre israélien exige le retrait des casques bleus de la FINUL. En Côte d'Ivoire, plus d'une centaine d'étudiants chassés de leurs chambres universitaires après un assassinat.
Le gouvernement de la République a pris un certain nombre de décisions, dont la libération totale de tous les lits dans les résidences universitaires illégalement occupées.
Ce sera à suivre dans notre section magazine. Et puis championnat d'Afrique de handball, Al Ahly Étoile du Congo brille à La Youne. Ce sera en sport juste après la page économique. Voici le journal. Au Nigeria, d'importantes inondations touchent le centre du pays depuis plus d'un mois, déplaçant de nombreuses personnes et faisant craindre une catastrophe humanitaire. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales. Les détails avec Gabi Dorsil.
De fortes pluies ont fait gonfler les deux plus grands fleuves du pays et de vastes zones autour du confluent du Niger et de la Benue dans le centre du pays sont sous l'eau. Omar Mahmoud, responsable de la gestion des catastrophes de la Croix-Rouge à Kogi, a déclaré qu'il y avait plus de 60 000 personnes déplacées, ajoutant qu'au moins 60 000 hectares de terres agricoles avaient été détruits. Le commissaire à l'information de l'État, Kingsley Femi Fanwo, qui a appelé les autorités nationales à l'aide, a souligné que les camps de déplacés étaient débordés. Il a donné une estimation beaucoup plus élevée du nombre de personnes déplacées, affirmant que plus de 1 million de personnes vivaient dans les zones touchées. Des inondations ont souvent lieu au Nigeria pendant la saison des pluies de mai à novembre, mais on craint que les dégâts à Kogi ne dépassent ceux observés en 2022, lorsque le Nigeria a connu ses pires inondations en 10 ans qui ont fait plus de 500 morts et 1 400 000 déplacés.
En RDC, le parti présidentiel a annoncé sa préparation à une révision de la Constitution, suscitant des inquiétudes au sein de l'opposition. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, a déclaré que la Constitution actuelle présente des limites et doit évoluer. Il a invité ses lieutenants à mobiliser et à conscientiser la base du parti pour imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution. Au Mozambique, le candidat du parti au pouvoir Frelimo à la présidence, Daniel Chapo, a été donné vainqueur dans la capitale Maputo avec 54% des suffrages, a annoncé hier la commission électorale en plein décompte des voix pour les scrutins présidentiels et parlementaires. L'indépendant Venancio Mondlane, soutenu par le petit parti Podemos, en a obtenu 34%, tandis que Soufo Nomadé, du principal parti d'opposition, la Renamo, en a recueilli 9,6%. Ce résultat devrait permettre au Frelimo de se maintenir au pouvoir. L'ex-employé des Nations Unies et chef rebelle Hutu, Calixte Mbarushimana, a bénéficié d'un abandon des poursuites en France pour participation au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La justice estime que les charges contre lui sont insuffisantes. Après analyse de l'ensemble des éléments à charge et à décharge, indique une source proche du dossier. Calixte Mbarushimana, 61 ans, mis en examen depuis 2010 pour crime contre l'humanité et complicité, a toujours clamé son innocence. Aucun élément n'a permis d'établir une culpabilité ou une participation à un quelconque fait criminel, a indiqué son avocate, Maître Laurence Garapin. L'avocat du collectif des partis civils pour le Rwanda, Maître Simon Forman, a indiqué avoir fait appel du non-lieu, estimant l'enquête lacunaire. D'après lui, certains témoins n'ont pas été entendus et les informations d'un rapport d'enquête interne de l'ONU n'ont pas été vérifiées. Au Soudan, un réseau de secouristes bénévoles a annoncé hier que 23 personnes ont été tuées la veille dans une attaque aérienne menée par l'armée sur un marché de Khartoum à proximité de l'un des principaux camps des forces de soutien rapide. Le point avec Rosine Munezero.
23 personnes ont été confirmées mortes et plus de 40 autres blessées et transférées à l'hôpital après des frappes aériennes samedi après-midi sur le marché principal du sud de Khartoum, a déclaré le réseau de cellules d'intervention d'urgence dirigé par des jeunes dans un message sur Facebook. Depuis vendredi, les affrontements se sont intensifiés à Khartoum où les avions de l'armée ont bombardé le centre et le sud de la ville dont la majeure partie est contrôlée par les FSR. L'armée a avancé vers Omdurman, village adjacente à Khartoum où des affrontements ont eu lieu samedi selon des témoins. Les belligérants sont accusés de crimes de guerre pour avoir visé délibérément des civils et bloqué l'aide humanitaire dans ce conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes selon l'ONU. La veille, Médecins sans frontières a mis en garde contre l'insécurité alimentaire au Soudan, appelant les deux parties à permettre l'accès humanitaire, affirmant que la situation sur place était un cauchemar.
En Afrique du Sud, 7 personnes, dont 5 membres d'une même famille et un garçon de 3 ans, ont été tués par balle dans un quartier informel de Johannesburg. Le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui-même et s'est suicidé, a indiqué dimanche la police. Celle-ci explique qu'un homme s'est rendu dans une taverne de quartier et, la trouvant fermée, a eu une altercation avec le propriétaire. Ce dernier a suivi l'homme jusqu'à son domicile et a ouvert le feu sur les membres de la famille rassemblés pour célébrer une cérémonie de dot. Le suspect est ensuite rentré chez lui où il serait tiré dessus. Transporté à l'hôpital, il est décédé à son arrivée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé hier au chef de l'ONU d'éloigner les soldats de la paix déployés au sud du Liban du danger, affirmant que le Hezbollah les utilisait comme boucliers humains. Les précisions de Claire Morin-Gibour.
S'exprimant avant une réunion du cabinet, M. Netanyahou a déclaré que les forces israéliennes avaient demandé à plusieurs reprises à la FINUL de partir, affirmant que la présence des soldats de la paix avait pour effet de fournir des boucliers humains aux terroristes du Hezbollah. Votre refus d'évacuer les soldats de la FINUL en fait des otages du Hezbollah. Cela les met en danger ainsi que la vie de nos soldats, a déclaré le Premier ministre. Son appel au chef de l'ONU, Antonio Guterres, est intervenu un jour après que la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, a réitéré son refus de se retirer de la zone frontalière après que 5 de ses membres ont été blessés lors des combats entre Israël et le Hezbollah. La force de paix de l'ONU au Liban a pour sa part demandé dimanche des explications, dénonçant de nouvelles manœuvres la visant. De son côté, le Premier ministre libanais Najib Mikati a dit condamner la position de Benjamin Netanyahou et l'agression israélienne contre la FINUL, dont 10 000 hommes sont déployés dans le sud du Liban. Par ailleurs, le Pentagone a annoncé dimanche le déploiement en Israël d'un système américain de défense antimissile à haute altitude qui sera manœuvré par des militaires des États-Unis après des attaques de missiles par l'Iran.
Ici, aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump ont sillonné chacun hier des États disputés. La vice-présidente américaine a tenté de dissiper les doutes sur sa capacité à mobiliser les électorats traditionnels cruciaux pour le camp démocrate et l'ex-président républicain a martelé son discours anti-immigration. Les détails avec Firmin Koyawida.
La candidate démocrate Kamala Harris se trouvait dimanche en Californie du Nord, État remporté par un candidat démocrate pour la dernière fois en 2008 avec Barack Obama et récemment sinistré par l'ouragan Helene. Elle a assisté à un service religieux dans une église fréquentée en majorité par les Afro-Américains à Greenville, localité à plus forte population noire, mais qui connaît un important taux d'abstention électorale. Le candidat républicain Donald Trump s'est, lui, rendu en Arizona, état frontalier où son discours anti-immigration fait recette. En meeting samedi soir en Californie, Donald Trump a promis, une fois de plus encore, des expulsions massives dès son retour au pouvoir et de lourdes peines de prison pour les immigrés clandestins. Après ces quelques jours de duel à distance, les deux candidats doivent se retrouver lundi en Pennsylvanie, considéré comme vital par chacun des deux camps pour s'ouvrir la voie vers la Maison-Blanche. À un peu plus de 3 semaines du vote du 5 novembre, les sondages restent toujours serrés.
L'armée coréenne affirme être entièrement prête à réagir aux avertissements de la Corée du Nord après une escalade des tensions entre les deux pays concernant des vols de drones à destination de Pyongyang, qui a ordonné à ses troupes à la frontière de se préparer à ouvrir le feu. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Nathalie Barge.
Le Club des avocats d'affaires africains tiendra sa 13e conférence annuelle le 24 octobre au siège du MEDEF international à Paris sur le thème du potentiel des œuvres audiovisuelles pour l'Afrique. Des experts et avocats aborderont les défis de la production cinématographique en Afrique. Des ministres de la culture, producteurs et organisateurs de festivals africains seront parmi les intervenants. Le gouvernement zimbabwéen a engagé 2 cabinets de conseil financiers pour négocier la restructuration de 21 milliards de dollars de dettes. Les cabinets ont été sollicités par l'intermédiaire de la Facilité africaine de soutien juridique de la Banque africaine de développement qui assiste les États pour faire face aux litiges avec les créanciers. Harare a fait défaut sur sa dette en 1999 et la crise économique s'est aggravée dans les années 2000 suite à la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe. La plateforme sociale X a annoncé le remplacement du partage des revenus publicitaires par un pourcentage des paiements des utilisateurs premium pour rémunérer les créateurs de contenu. La plateforme souligne sur son compte officiel que les revenus augmenteront en fonction du nombre d'abonnements premium. Le nouveau processus de monétisation prévoit que 25% des paiements des abonnements premium iront directement aux créateurs.
Merci Nathalie pour ces informations économiques. Place à présent à l'actualité sportive présentée ce matin par Élisée Oukpatin. Bonjour Élisée.
Bonjour Nanit et bonjour à tous.
On parle football avec les qualifications de la CAN 2025 qui se poursuivent et début hier de la 4e journée.
Oui, et le Burkina Faso a décroché sa qualification pour la phase finale à la faveur de sa victoire 2-0 sur le Burundi. Déjà victorieux lors du premier match, les étalons ont remis ça hier pour assurer leur présence au Maroc. Et le sélectionneur Brahma Traoré s'en réjouit tout en félicitant ses joueurs.
Ce soir, on s'est senti à Ouagadougou parce que même au stade de Katout, on ne pouvait pas être supporté mieux que ça. Nous pensons que les gens reconnaîtront que le Burkina est en train de revenir sur le circuit international. Je pense qu'en entrant dans l'histoire, je rentre avec toute une équipe. Les assistants, les joueurs aussi qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions nous qualifier après 4 matchs. Donc nous rentrons dans l'histoire. Ce n'est pas le coach qui rentre dans l'histoire, mais je crois que l'histoire parlera de ce moment précis. Moi, je suis un fruit du football local. Je suis un entraîneur local. Donc ce sont les locaux qui entrent dans l'histoire. Il faut compter également sur l'expertise nationale et à moindre frais.
À l'instant, Brahma Traoré, sélectionneur des étalons du Burkina Faso au micro de Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Élisée, au programme aujourd'hui, 6 matchs comptants pour cette 4e journée.
Tout à fait, et dans le groupe E, on aura Libéria, Guinée équatoriale et Togo, Algérie. D'ailleurs, des Fenech en déplacement à Lomé peuvent aussi assurer leur qualification, tout comme les Lions indomptables du Cameroun qui vont se rendre au Kenya dans la poule J. Dans ce groupe, le Zimbabwe pourra conforter sa deuxième place en cas de victoire sur la Namibie. Pour le reste, en quête de points, la Gambie et Madagascar s'affrontent dans la poule A. Même situation pour les Swatini opposés au Mozambique dans le groupe I.
Dans le reste de l'actualité sportive, pour terminer, du handball, avec notamment le 45e championnat d'Afrique des clubs champions à Laayoune au Maroc.
Oui, et chez les hommes, les Égyptiens d'Al Ahly du Caire ont remporté leur second match, cette fois 38-19 contre les Congolais de la JSO. Deuxième succès en 2 sorties aussi pour l'Étoile du Congo, vainqueur 25-12 des Éthiopiens de Mekele. Même performance également pour les Béninois d'Adija qui ont largement battu les Sénégalais d'Asfa 43-25. Première victoire en revanche pour le second représentant béninois, Flouez, qui a eu raison des Marocains de Raja, score 37-20. Pas coup difficile par contre chez les dames. Deuxième défaite en autant de sorties pour Flouez, battu 23-20 par les Congolaises de l'AS Otoho Doho. Sinon, les Angolaises du Petro de Luanda poursuivent leur sans faute après avoir corrigé 33-11 les Marocaines de Noisset.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani de retour pour notre section magazine. Au Tchad, les marchés et certains lieux de culte de la capitale sont inondés. Une situation qui a impacté les activités génératrices de revenus, mais aussi les activités religieuses. Les barrages érigés dans certains quartiers pour empêcher la progression des eaux du fleuve Chari et l'Ogone n'ont pas empêché le pire. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Au marché Amil, situé dans la commune du 4e arrondissement de N'Djamena, les commerçants détenteurs de boutiques et hangars se plaignent. Ces inondations ont fait baisser considérablement leur chiffre d'affaires.
On n'a même pas les clients.
C'est 2 semaines maintenant. Donc c'est très difficile pour nous. Même le maire même, lui-même qui est venu, de garder ça, mais il n'a même pas les solutions.
Aujourd'hui, nous sommes déjà à 2 semaines dans cette situation. Avant-hier, on avait retiré l'eau, mais c'est seulement la nuit que l'eau a encore augmenté. Tout ce que je peux dire, peut-être le gouvernement puisse agir.
Les lieux de culte ne sont pas épargnés. La paroisse Saint-Paul de Kabalaï, située dans la commune du 3e arrondissement, est envahie par les eaux. Grâce à la vigilance et à la promptitude des fidèles, le pire a été évité, mais ils restent toujours sur leur garde.
Si vous constatez que tout est déjà sec, c'est vraiment l'effort de la jeunesse de la paroisse, parce qu'on avait dit, si on attend l'État, c'est qui? C'est d'abord nous et c'est notre paroisse en premier lieu.
Ève Béatrice est la responsable de la liturgie de la coordination des jeunes de la dite paroisse.
Avant-hier, on pensait que bon, c'est bon, on va se reposer. Subitement encore, à partir de 18h, l'eau encore est revenue. Là, nous avons des équipes de permanence et de garde. Chaque fois, on fait la rotation.
La menace est restée du côté de la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena, commune la plus touchée par les inondations de 2022. Même si le niveau des eaux du fleuve Chari et l'Ogone est resté stable ces derniers jours, les habitants sont sur le qui-vive, a déclaré à VOA Afrique, Minamou Djopsou Ezekiel, porte-parole de l'association Jeunesse Active du 9e arrondissement.
Nous avons dépassé l'augmentation du niveau de 2022 qui était de 7 quelques. Or, cette année, nous étions à 8-16. Donc, la menace reste. C'est pourquoi les digues de fortune qui ont été construites, les gens veillent nuit et jour pour que l'eau ne puisse pas déborder. Effectivement, un jeune qui faisait partie du comité de veille, qui est sorti avec les autres amis la nuit pour faire le tour, pour vérifier s'il y a un problème, il se trouvait qu'il y avait une fuite d'eau, il y avait un sac qui était tombé dans l'eau, il fallait le reprendre et le remettre à sa place. Et dès qu'il est descendu, il n'est plus ressorti des eaux et donc on l'a enterré même hier. Donc c'est un cas désolant.
Président à la rencontre d'urgence de gestion de risque des inondations, le premier ministre tchadien Alamaï Alina demande au comité de prévention et de gestion des inondations de mettre les bouchées doubles pour éviter le débordement des eaux du fleuve Chari et l'Ogone.
Le comité doit fournir des sacs de jute afin de solutionner les points critiques. J'en appelle aussi une fois aux entreprises qui exercent chez nous pour marquer leur solidarité en tant qu'entreprise citoyenne en mobilisant leurs engins en vue de disponibiliser des terres et des remblais qui serviront à construire les barrages.
Au 10 octobre, selon les spécialistes, le niveau du fleuve Chari et l'Ogone était supérieur à celui qui a fait des dégâts énormes en 2022. La montée journalière est de 3 cm, donc le dégât persiste. André Kodumadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Au Cameroun, les autorités ont renforcé la sécurité dans plusieurs quartiers de Douala, la capitale économique, suite aux récentes attaques des bandes organisées attribuées aux jeunes gens communément appelés microbes. Depuis le mois dernier, ces derniers ont pris 3 quartiers pour cible. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
L'attaque la plus récente a été enregistrée la semaine dernière au quartier Cité des Palmiers, dans le 5e arrondissement de Douala. Ces bandes organisées ont pris les débits de boissons pour cible. Les victimes sont encore sous le choc, à l'instar de cette jeune femme qui s'exprime sous anonymat.
Ils se sont servis au comptoir aux environs de 300 à 400 000. Ils ont pris les téléphones des clients et l'argent. Ils ont blessé aussi les gens parce que j'ai ma collègue qui a été blessée au bras. On a cassé la bouteille sur elle.
Un autre témoin, la quarantaine révolue, a vécu la scène et raconte sans s'identifier.
Ils étaient nombreux. Ils étaient armés, ils avaient des haches, des couteaux, des machettes, même des gourdins. Quand ils arrivent ici, nous aussi on prend fuite. Après, ils sont montés maintenant, ils ont continué vers la mosquée. Avant la mosquée, ils ont tamponné un papa là. Il voulait donc prendre son téléphone. Il n'a pas voulu céder. Donc coupé le bras.
Le 20 septembre dernier, ces jeunes gens ont attaqué plusieurs personnes au quartier Bali et Bonapriso, dans le premier arrondissement de Douala. Ils ont ôté la vie à un homme. Depuis lors, ce jeune opérateur économique vit dans la peur.
Et on a même déjà la psychose et ça fait peur. En tant qu'habitant de Douala, c'est quand même un peu compliqué. Imaginez-vous, vous êtes en train de travailler comme ça et puis ils entrent de nulle part, ils vous pointent les armes blanches sur vous. Vous allez coopérer.
Des femmes âgées sont aussi paniquées et en colère.
Dans notre propre quartier, nous n'avions pas la paix. Nous ne pouvions pas entrer chez nous à plus de 20 heures. Donc c'est fatigant. À 18h, nous on dormait, là on fermait dans nos portes ici là. Donc ça n'allait pas. Même dans nos maisons, même, ils nous agressaient nous-mêmes. On ne dormait pas.
Depuis le 9 octobre, 15 points fixes de contrôle de sécurité ont été créés dans les zones à risque de la ville de Douala. Samuel Dieudonné Ivaha, gouverneur de la région du littoral dont Douala est le chef-lieu, ne disculpe pas les jeunes appréhendés et responsables de ces attaques en bande organisée.
Les prisons aussi sont faites pour des mineurs. Dans une réglementation précise. Mais lorsqu'un mineur tue, je ne vous dis pas le reste. Sachez que la ville de Douala est quadrillée et nous demandons que vous coopérez. Les parents qui protègent les bandits n'ont qu'à pleurer parce qu'il n'y aura pas de pitié.
Pour Antoine Awana, un expert en sécurité, le phénomène des microbes est un message qui s'adresse aux gouvernants.
Ces gars se révoltent. Face à la bourgeoisie mercantile, industrieuse et oisive de ceux qui nous gouvernent, comment les gens peuvent distraire 5 000 milliards
en 10 ans.
Alors que ces enfants que vous voyez là, vous verrez que là-bas, il y a beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur. Il y en a qui sont au quartier, chômage. Je compare ça au problème au nord-ouest et au sud-ouest. Hein. Quand ça commençait en 2016, on disait, c'est des simples revendications corporatives. On se retrouve avec très pratiquement 5 à 6 ans de guerre là-bas, une guerre totale.
Des opérations coup de poing sont également en cours à Douala contre la vente du carburant frélaté, la contrebande et la circulation de substances psychotropes. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, une vaste opération de déguerpissement des chambres occupées illégalement a été lancée sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cela fait suite à l'assassinat d'un étudiant de la FESI qui a poussé les autorités ivoiriennes à rétablir l'ordre et la discipline. Plus d'une centaine d'étudiants se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Éric Conan et Fatim Kamagaté doivent quitter leur résidence universitaire. Ils font partie des étudiants qui n'ont pas suivi la procédure normale pour obtenir leur chambre.
On ne peut pas vivre dans une chambre sans toutefois être propriétaire de la chambre. Parce que nous on vit, on ne paye pas les chambres. Bien vrai que nous sommes, c'est l'État qui nous octroie ces chambres-là, mais il faut aussi payer. Le moment on n'a pas de solution, parce que nous sommes choqués, on n'a pas de solution. Mais si au moins l'État pouvait au moins penser à certains étudiants innocents, quand je dis innocents vraiment, parce que nous tous nous sommes étudiants et nous sommes fessis, hein. Quand nous sommes fessis, parce que dans fessis même, quand on définit fessis, il y a étudiants dedans. Donc, vu que la définition de fessis, qui est étudiant dedans, nous sommes inclus. Mais il y a certains étudiants qui sont innocents, qui ne font pas ces pratiques-là.
Je trouve que l'action de l'État, c'est une bonne action, mais elle était brusque. Donc, en cela, bon, moi, je projette de rentrer en famille, mais je suis toujours sous le choc. Parce que du jour au lendemain, tu dors, tu te réveilles, on te dit, bon, tu dois dégager la chambre. Bon, j'ai déjà postulé pour l'obtention encore de la chambre depuis 3 mois. Auprès du cours, donc j'attends de la nouvelle.
L'obtention des chambres universitaires est une procédure qui est beaucoup trop longue selon certains étudiants. Ils passent donc par des moyens jugés illégaux pour se faire loger. L'opération de déguerpissement qui a commencé cette semaine vient donc comme un soulagement pour les autorités universitaires. Daouda Sidibé, directeur des centres universitaires de la vie associative et du genre.
Le gouvernement de la République a pris un certain nombre de décisions dont la libération totale de tous les lits dans les résidences universitaires illégalement occupée. L'opération va durer toute la durée qu'il faut pour traiter toute la cité universitaire.
L'opération de dégarpissement fait suite à une série d'événements tragiques, notamment l'assassinat d'un étudiant de la FESI la semaine dernière. Une situation qui a poussé les autorités ivoiriennes à rétablir l'ordre et la discipline sur le campus de l'université. Guy Mao, ancien membre de la FESI.
Si cela est avéré, ça veut dire aussi que le coup aussi est complice. Parce que quelqu'un peut quitter en ville, venir loger dans une chambre que vous gérez, et puis après vous allez dire non que c'est une organisation qui a la base de ça. Donc si ça a été fait, c'est que c'est le coup qui l'a favorisé. C'est ce que je peux dire. Mais moi, je pense que ce qui appartient aux étudiants, doit revenir aux étudiants.
Selon les autorités universitaires, l'opération de dégarpissement va durer un mois entier. Une centaine d'étudiants ont déjà vidé les chambres sous la pression des forces de l'ordre. Ange Bijunomignan pour VOA Afrique, à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le débat autour du port du voile dans les écoles catholiques alimente la peur de voir se dégrader la cohabitation religieuse. À l'origine, une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko qui a provoqué la colère des responsables catholiques du pays. Les assurances du ministre de l'Éducation n'ont pas encore réussi à éteindre la polémique. La correspondance de Dakar de Wani Johnson Sombou.
Ce qu'on ne peut plus accepter ici au Sénégal, quel que soit l'établissement scolaire, c'est de voir une élève se faire renvoyer parce qu'elle porte un voile sur la tête. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a ressuscité le 31 juillet dernier une polémique qui semblait pourtant close. Le sujet sur le port du voile dans les écoles privées catholiques anime les débats depuis. Certains Sénégalais comme Ismaïla Diatta, la quarantaine, trouvent la mesure salutaire.
Dans les écoles franco-arabes, il n'est pas dit que forcément les filles devront porter un voile. Et dans les écoles catholiques, on impose aux filles de ne pas les porter. Je considère que si c'est une école foncièrement religieuse, on peut imposer aux filles de porter ou de ne pas porter quand nous sommes dans une école catholique ou quand nous sommes dans une école coranique.
La polémique persiste malgré les assurances des autorités sénégalaises qui ont publié un arrêté ministériel incluant la croix chrétienne aux signes religieux concernés. Le Conseil national du Laïka, regroupant des associations et mouvements catholiques, demande au gouvernement de laisser aux écoles privées catholiques la liberté de faire leur travail. Amadou Siradio Baldé, enseignant, appelle à des discussions.
Je crois qu'au Sénégal, entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a jamais eu de problème. Pas du tout. Nous vivons en paix. On va vivre en paix, on va continuer à vivre en paix. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue sincère pour qu'on puisse comprendre aux différentes parties que le voile-là ne doit pas poser de problème. Autant que la croix ne peut pas poser un problème dans les établissements publics, je crois que le voile ne devrait pas poser un problème dans les établissements catholiques. Dans la mesure où nous avons un seul système éducatif.
Alors que beaucoup évoquent un malentendu, cette polémique autour du voile est perçue par d'autres comme un jeu dangereux pour la cohabitation religieuse au Sénégal. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Et voilà qui conclut ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci à Firmemax Koyaweda pour la mise en onde avec l'assistance de Calvin Fowler à la console. Nanit Talani était à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, X et Instagram. Excellente journée, à très bientôt.